Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là en ce samedi matin pour cette 39e Foire du Livre. Et qu'est-ce qu'on est content que cette édition ait lieu pour parler de littérature, du rapport qu'a la littérature à la mer, puisque c'est le choix de Didier Decoing d'avoir choisi Olivier Frébourg en tant qu'écrivain, mais également éditeur. Et la première question pour introduire cet échange, dans votre précédent ouvrage, Olivier Frébourg, Un si beau siècle, vous nous recommandiez tous les matins, et nous sommes encore en matinée, de lire un poème. Est-ce que ce matin, vous avez lu un poème ?
Alors absolument, j'ai lu un poème. Alors vous voyez, c'est pas du tout préparé. Bonjour à toutes et à tous. Cher président, double président, parce que président des écrivains de marine et président de la foire de Brive, je suis heureux de te retrouver. Et je montrais ça hier à Didier, avant de quitter Paris, aux éditions du Dilettante, qui est une maison d'édition prestigieuse et aussi un bouquiniste, je suis tombé sur un recueil de Derek Walcott, qui est un poète que j'aime beaucoup, dont les livres sont malheureusement introuvables. Donc dès qu'on en trouve un, on a envie de le lire. Et Derek Walcott, qui a eu le prix Nobel de littérature, je crois en 1990-12, est un poète caribéen et qui a parlé énormément de la mer et des Caraïbes. Et donc, en effet, tous les matins, je me prends une petite pépite, comme d'autres prennent une petite pilule de poésie, parce que ça vous remet debout, ça donne de la beauté, ça voilà, et ça, c'est quelques strophes qui vous habitent et qui vous suivent pendant la journée.
C'est drôle ce que tu dis, parce que moi je ne le fais pas, mais mon père avait pour habitude tous les matins de lire une page de Jean Giraudoux, parce qu'il considérait que l'écriture de Giraudoux était la plus lapide, proche de ce qu'il trouvait l'idéal de la langue française. Alors il m'avait dit que je devrais faire ça. Alors j'ai commencé à le faire. Au bout d'un moment, je me suis dit, cela dit, Giraudoux qu'on ne lit plus, on devrait le relire, parce qu'il y a des choses admirables. Notamment, moi je vous engage à découvrir Suzanne et le Pacifique, oui, hein, qui est peut-être, pour moi, son livre le plus éclaboussant et éclaboussé de charme et de joliesse. Donc, c'est très bien de lire. Je vais me mettre à lire de la bande dessinée tous les matins.
Vous voyez, regardez, là, je simplement l'exergue. Alors, l'exergue, elle est de Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, c'est un poète qui est assez intéressant, parce que c'est un poète à la fois britannique, qui a vécu aux Antilles et ensuite qui est devenu un spécialiste du Japon et de l'Extrême-Orient. C'est un poète, un journaliste également. Et je vais vous lire quand même cette exergue qui est d'une folle poésie. Et au moins, vous ne serez pas venu pour rien, parce que je suis sûr que ça vous accompagnera. Et devant toi, tu as un rêve géologique, une vision de la mer originelle, l'apparition de la terre telle qu'elle vint au monde, tout hérissée de cimes, fissuré, farouche et nu, dans la formidable naissance d'un archipel. Ben voilà, moi je trouve que déjà le voyage commence.
Et le voyage, je citais à nouveau ce livre, un si beau siècle, et Olivier Frébourg dans une très belle définition qui pourrait tout à fait s'accorder à une foire du livre et à cette foire-là, vous dites « Les bibliothèques composent une mémoire vivante, un éveil des sens, elles permettent de voyager d'un pays à l'autre, les plus parfumées se trouvent dans les villas de vacances ». Les livres gardent entre leurs pages la douceur du temps suspendu. Didier Decoing, une foire du livre aussi, la rencontre avec les écrivains, c'est une manière aussi de suspendre un peu le temps et de voyager tout en étant immobile ?
Ah oui, parce que chaque écrivain est un voyage. Parce que chaque livre vous fait découvrir un être qu'on ne connaissait pas, un personnage dont on ignorait l'existence, les manies, les engouements, les déceptions, etc. Et puis des univers. Chaque écrivain a son univers. Je dirais même que chaque écrivain a sa géographie. Tournier disait qu'il y avait deux sortes de romanciers, les romanciers du temps et les romanciers de l'espace. Et parmi les romanciers de l'espace, les romanciers de l'espace, ce sont les romanciers géographes. C'est Jules Verne, par exemple, etc. Les romanciers du temps, c'est plutôt les historiens ou ceux qui s'intéressent. Dumas est un romancier du temps. Et donc, dans une foire du livre, on trouve ces gens avec des bagages, hein, le temps, l'espace, le temps. C'est fascinant. la foire ou le salon, enfin, toute manifestation qui rassemble des auteurs, cette espèce de kaléidoscope d'univers qui se télescope, sans jamais se faire mal d'ailleurs, hein, qui se frôle, qui s'échange des dessus et des dessous. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et c'est vieux, on a toujours... Je cherchais quelle était l'origine des rassemblements où on présentait, où on vendait, où on commentait des livres. Ça remonte pratiquement à la nuit des temps. Dès que l'objet livre a existé, des gens se sont rassemblés avec ça et puis se les échanger. Ça coûtait très cher. Et puis les commenter ensemble.
Le choix d'avoir demandé à Olivier Frébourg d'être là ce matin, on le comprend tout à fait quand on lit vos deux œuvres, puisque chez Didier Decoin, il n'y a pratiquement aucun roman où on ne trouve pas d'eau.
Oui, je suis un aquatique.
D'où une écriture aussi très, extrêmement par moments liquide. Et chez Olivier Frébourg, cet appel évidemment du large, avec cette nouvelle parution où vous composez une géographie d'auteur dans cette latitude mer. Et on le retrouve dès le départ dans la fondation de votre maison d'édition, Équateur, qui fait référence à un poème magnifique de Sandre Ars, que je vais vous lire. « L'océan est d'un bleu noir, le ciel bleu et pâle à côté, la mer se reflète tout autour de l'horizon. On dirait que l'Atlantique va déborder sur le ciel, tout autour du paquebot. C'est une cuve d'outre-mer pure. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme aussi de paquebot, on le retrouve dans un de vos romans, où vont les fils, où vous commencez par cette phrase « L'enfance est un paquebot ». Donc la mer a évidemment à voir à faire avec l'enfance, mais également avec la poésie.
Alors oui, pour moi l'enfance c'est un paquebot parce qu'elle a vraiment été un paquebot au sens premier du terme, ce n'est pas une image. J'ai un père qui est capitaine de Noncourt et donc à l'âge de 3 ans et demi nous sommes partis parce qu'il était nommé capitaine d'armement à Fort-de-France à la Martinique et nous sommes partis sur un paquebot où il avait longtemps été second capitaine qui s'appelait Antille, qui était un magnifique paquebot blanc. Et évidemment quand vous êtes enfant et que vous partez 8 jours de traversée pour aller à la Martinique avec ses piscines, ses salles de jeux, cette comédie, parce que la vie des paquebots, alors je parle des paquebots de la French Line ou des messageries maritimes, c'était une vie extrêmement ritualisée, pour le coup, qui a totalement disparu aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec, je dirais, les énormes paquebots gaufriers à touristes que nous avons aujourd'hui, mais c'était un lieu, évidemment, d'observation absolument fascinant. Donc, pour moi, cette traversée a été la traversée un petit peu originelle, constitutive du mythe de l'enfance et d'un jardin d'Éden qui a été pour moi cette vie aux Antilles, à la Martinique et à travers les îles.
Et tous vos romans sont ensuite composés de cette géographie à la fois réelle et imaginaire. On est à Lisbonne, on est à Saint-Malo, on est à Rouen, on est dans le sud-ouest, on est en Australie, on est en Asie et on pense au dernier roman de Didier Decoin.
D'ailleurs, Didier, est-ce que tu te définis comme un romancier de l'espace, de la géographie ou au contraire de l'histoire?
Ben, un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Parce que je suis fasciné par la géographie. C'est une matière où j'étais bon quand j'étais à l'école. Et je suis passionné de plus en plus par l'histoire. Parce que grâce à Dieu, l'histoire s'est un peu dépoussiérée. Aujourd'hui, on la raconte avec plus de simplicité qu'au temps où je l'étudiais à l'école, où c'était très, très solennel. Maintenant, on a agrandi les vêtements, on est à l'aise dedans. Mais je voudrais revenir deux secondes sur ce que tu disais sur l'enfance paquebot. Moi aussi, j'ai eu une enfance paquebot. J'ai malheureusement pas eu le paquebot Antilles, dont j'avais des photographies dans un cahier de classe, parce que je le trouvais, c'est vrai, il était blanc. Il avait une ligne magnifique. Je crois, il a fini comment, d'ailleurs
c'est terrible, d'ailleurs, parce que... je vais te raconter l'anecdote parce qu'elle est extrêmement symbolique. Donc ce paquebot avait pour vocation de naviguer aux Antilles, quittant le Havre. Et un jour, nous étions aux Antilles, nous y vivions à Fort-de-France, et mon père, le dimanche, nous partions toujours à la plage. La plage, pour ceux qui connaissent des Salines ou de Sainte-Anne, et il s'arrête toujours à son agence le matin et il reçoit un téléx du commandant d'Antilles qui lui dit « J'ai talonné, le bateau était en train de naviguer pas très loin des îles Moustiques et Saint-Vincent, je demande ce qu'on appelle des moyens, c'est-à-dire des remorqueurs, etc., pour aller le tirer. Et en fin de compte, ce qui s'est passé est une chose absolument terrible, très conradienne. Les commandants de paquebots avaient l'habitude, si vous voulez, pour les passagers, de longer les îles. Vous voyez ce que je veux dire, de pour leur montrer voilà, au plus près les rivages, etc. Donc le commandant, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses cartes. Il y avait des cartes françaises et des cartes anglaises. Hein. À l'époque, c'était des cartes toujours papier. Il voit, il n'y a pas d'obstacle, etc. Il va s'engager entre deux énormes rochers et en ayant pris toutes les précautions, à savoir pas d'écueil, pas de récif sur ces deux cartes. Et en fin de compte, il y avait la présence d'un énorme récif de corail connu des habitants des îles autour. Et quand ils ont vu le bateau s'engager, un petit avion de tourisme a décollé pour aller prévenir le commandant. En passant, il y a des signaux, si vous voulez, où vous pivotez les ailes pour montrer qu'il y a un danger signalé. Le commandant l'a vu, il a compris, c'était trop tard. Il est allé talonner sur ce récif de corail et la coque s'est déchirée. Il y a eu un incendie, une voie d'eau. Le bateau a commencé à agiter, à brûler, etc. Et donc, il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Tout le monde a été évacué. Et mon père, comme capitaine d'armement, je me souviendrai toujours, a été élitreillé pour récupérer le pavillon français, parce qu'ils étaient en eau, à ce moment-là, britannique. Et donc, il fallait récupérer le pavillon. Et évidemment, mon père, qui avait été second capitaine sur ce paquebot, est rentré dans la salle à manger des premières classes et a vu la cheminée peu à peu s'effondrer. Et je me souviendrai toujours du commandant de ce bateau, qui était un commandant prestigieux, qui devait prendre le commandement du France ensuite, rentrer chez nous dans notre villa avec sa chemise d'officier brûlée. Et évidemment, pour un pacha, donc un commandant, c'est une faute originelle. Il a été blanchi parce qu'il n'a fait absolument aucune faute de navigation. Mais quand vous êtes commandant et que vous avez mis votre bateau, ce qu'on appelle au sec, voire vous lui avez causé une avarie et un naufrage, évidemment, vous êtes un homme brisé intérieurement. Voilà. Et donc, c'est une problématique absolument moins dramatique que celle de Lord Jim, parce qu'il n'y a pas de mort, mais qui m'a souvent hanté.
Oui, mais alors, elle me rappelle un événement très récent. Comment s'appelait ? Concordia ? Le bateau... Oui, de la Costa, et qui a voulu montrer aux passagers aussi comme c'était joli la terre, vue de la mer, et qui s'était ventré. Et moi, j'avais pris ce bateau un an avant, le Concordia, c'était quelque chose de monstrueux. Il était pas beau, hein, il était pas beau. Mais il était fascinant de grandeur, le nombre de ponts qu'il y avait. Enfin, c'était hallucinant. Et c'était, quand on voit ces choses énormes sur la mer, on se dit, ça peut pas couler. Ben si, ça coule aussi. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est que Olivier a eu la chance, lui, de monter sur des vrais paquebots. Moi, non, mais j'en ai rêvé. D'abord parce que mon père avait fait la traversée de l'Atlantique sur le Normandie, qui est un paquebot mythique, et qui nous racontait tout le temps comment c'était extraordinaire, les piscines, le théâtre, la salle à manger, avec surtout ce qu'il y avait dans les assiettes, parce que c'était un gourmand. Et donc, je l'enviais terriblement. Et je disais, mais on est vacances sur un paquebot, oh, tu verras ça plus tard, etc. Et moi, je n'ai pas voulu attendre, et donc je me suis fabriqué un paquebot dans un coffre à rideaux. Alors, les coffres à rideaux, ça n'existe plus, mais c'était des grands, vraiment des grands coffres. Ça allait de vous, par exemple, à après Olivier, en bois, avec un couvercle, et on mettait, dans les familles bourgeoises, on mettait les rideaux à l'intérieur pour que... Je ne sais pas pour qui passe l'hiver ou l'été, je ne me rappelle plus, mais c'était très grand. Et quand il n'y avait plus les rideaux dedans, c'était un espace de jeu absolument formidable. Alors moi, je m'étais construit un paquebot avec ça. C'est-à-dire que l'extérieur, j'avais peint des hublots, j'avais donné un nom, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et puis à l'intérieur, j'avais mis une petite couchette qui était un matelas pneumatique. J'avais mis de quoi manger, des petits beurres et du chocolat, très important. Et puis voilà, et je m'enfermais là-dedans. J'y voyais plus rien du tout, j'avais une lampe de poche, je m'enfermais là-dedans pendant des heures, et je rêvais que j'étais sur un vrai paquebot Mais j'ai beaucoup fabriqué de bateaux comme ça, bateaux que je ne pouvais pas atteindre. Par exemple, j'ai eu une envie, à un moment, à suite d'un livre que j'avais lu, une envie de sous-marin. Pas très commode, à 10-12 ans, de monter sur un sous-marin. Alors je me suis dit, je vais en fabriquer un. Et il y avait un garage pas très loin de l'endroit où on habitait, où il y avait des vieux pneus. Et quand on me demandait que j'avais une bonne note à l'école, ou alors, ce que je voulais, je voulais un vieux pneu. Et j'avais comme ça accumulé un nombre considérable de vieux pneus. Et je les avais empilés les uns sur les autres. Et ça faisait une sorte de tour, vous imaginez ça, une tour noirâtre. Alors moi, je me glissais à l'intérieur. J'avais juste la tête qui dépassait. Et c'était le kiosque de mon sous-marin. Et ma sœur, qui était une complice de mes jeux un peu dingues, avait un tuyau d'arrosage. Et m'arrosait moi, c'était les embruns. Et alors mes parents regardaient ça en disant, il est pas bien cet enfant, qu'est-ce qu'on va en faire ?
Mais ce qui est intéressant dans ce rapport que vous avez aussi dans l'enfance entre ce qui est extérieur au paquebot par l'imaginaire et ce qui est intérieur, plus amphibie avec le sous-marin, on le retrouve dans la manière aussi dont vous avez construit votre dernier roman. C'est-à-dire qu'il y a une part véritablement immersive où vous êtes plongé. Vous avez mis 12 ans à l'écrire. Entre-temps, vous avez écrit d'autres romans, mais ça a véritablement été une plongée dans ce Japon du XIIe siècle. Et en même temps, vous êtes resté cet enfant qui imagine ce Japon sans jamais y aller. Donc ce rapport à l'écriture, il est chez vous toujours aussi relié d'une certaine manière à l'enfance ?
Oui.
Et au jeu ?
Et à l'imaginaire. À l'imaginaire. Je crois que les plus beaux voyages, on les fait quand même en rêve. Hein.
Oui. Surtout toi, Didier, tu es de cette race d'écrivains de l'imagination. Tu es un formidable bâtisseur d'histoire. Et je pense aussi que tu as un paquebot qui est ni plus ni moins ton bureau dans le Cotentin à Goris. C'est un bureau passerelle, j'ai l'impression.
Ah, c'est un bureau passerelle. Ah, voilà. Avec,
donc, où tu peux écrire et là, appareiller pour justement les plus beaux voyages de l'imaginaire. Vous habitez, Chantal et toi, à la pointe de Goury, et devant le rat Blanchard, un rat connu des marins pour ses courants. Mais enfin, en même temps, voilà, c'est l'appel quand même...
Le Cap Horn du pauvre.
Voilà, c'est quand même l'appel du large en permanence.
Oui, mais vraiment, j'ai fait une erreur énorme. C'est une toute petite maison de pêcheurs. Donc, pour me faire un bureau, il n'y avait pas 150 000 possibilités. D'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas le grenier ? Et alors donc, j'ai installé mon bureau tout à fait en haut, avec ces fameux 180 degrés de vue sur la mer. Mais c'est une erreur fatale, parce que quand je suis derrière mon ordinateur, face à la mer, et que je vois passer d'autres bateaux, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là à écrire ? Je serais beaucoup mieux sur la mer. Allez, je descends, je vais prendre mon bateau. Et quand je suis dans mon bateau, je vois mon bureau. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais sur ce bateau ? Je devrais être en train de travailler. Donc je quitte le bateau pour retrouver le bureau. C'est une vie de fou, finalement, qu'on mène. Il faut être fou pour être écrivain.
C'est la contradiction permanente, en effet, que tu définis parfaitement, mon cher Didier, entre l'écrivain qui aime la mer et qui est toujours tiraillé entre cette mer libre et le fait de s'enfermer dans son monde intérieur.
Olivier Frébourg, dans ce bateau-livre que constitue l'attitude mer, il y a énormément de textes. Vous avez notamment interviewé un couple d'intellectuels, les Vance, et vous consacrez également un texte qui s'appelle La Côte des Anges. Et ce qui est passionnant, c'est que tout en évoquant un lieu peu connu, le texte est truffé de références littéraires à Rimbaud, à la bande dessinée, avec cette idée aussi de clandestinité. Et on pense à votre texte sur Maupassant clandestin. Est-ce que le rapport à la mer, en le reliant à la littérature, c'est une manière d'alimenter, de garder une certaine clandestinité ?
Ah bah, bien sûr, oui. Quand vous êtes écrivain, c'est que vous inventez d'autres vies, d'autres mondes que nos pauvres petites vies quotidiennes. Donc la mer, c'est à la fois ce possible, cette tentation du possible, de s'inventer aussi d'autres vies. C'est une façon de ralentir étonnamment le temps. Hein. La réponse à l'accélération du temps que nous vivons, eh bien, je pense que la mer est un remède formidable. Et en effet, c'est aussi pour mener une vie, je dirais, au secret, parce que nous avons tous besoin, dans cette époque de transparence absolue et d'exhibition, nous avons tous besoin de nos secrets, de nos secrets d'amitié, de nos secrets d'amour. Et évidemment que la littérature, par définition, est une activité clandestine. Si j'avais employé cela pour Maupassant, qui est justement un cas tout à fait exemplaire, parce que je pense que Maupassant est l'un des premiers écrivains, modernes, à faire sortir la littérature au grand air. il la sort véritablement en lui donnant un côté presque athlétique, presque une, il y a une confrontation aux éléments. Maupassant est un écrivain qui, dès l'enfance, va sur les plages de Fécamp, voit à Étretat Courbet peindre la vague. Donc il a une relation extrêmement physique, extrêmement sensuelle. C'est un nageur. Puis ça va devenir un navigateur à la fois le long des côtes de la Manche, mais comme vous le savez aussi, sur la rivière, sur la Seine. Et pour lui, la mer, ça va être à la fois le reflet, ce fameux reflet du Horla, du miroir, mais ça va être aussi l'école de la sensualité, la maison fournaise, où se retrouvaient les impressionnistes, où se retrouvait cette faune des canotiers. Et puis ensuite, il aura, comme tout Normand, la tentation du Sud. Voilà, la Corse, il aura trois yachts, dont deux qui s'appelleront le Bel Ami, et il voguera le long des côtes italiennes, le long des côtes siciliennes, etc. Et donc, ce sera un homme aussi, voilà, qui à la fois aura tenté énormément de choses, ce sera un homme d'une impudeur à la fois et d'un sens du secret absolument magnifique. Et puis, s'il y a un art du conteur, s'il y a quelqu'un qui sait compter, c'est Maupassant. Vous commencez un conte ou une nouvelle de Maupassant, vous ne l'arrêtez pas. Vous ne l'arrêtez pas. Il annonce Simenon aussi, d'une certaine façon, dans son sens, je veux dire, à l'os, hein, dans ce sens de la narration, où voilà, on va aller chercher tout de suite les moteurs du cœur humain, c'est-à-dire le désir, la concupiscence, l'identité, d'où nous venons, etc. Et c'est en cela que, si tu voulais, c'est un écrivain absolument fascinant, dont le parcours, je trouve, et moi, m'a beaucoup hanté, parce qu'il aurait pu être un écrivain du Pays de Caux, enfermé dans ces drames paysans, dans cette guerre de 1870 qui l'a beaucoup hanté. Non, il va y répondre, bah, je veux dire, comme par un appel de la sensualité très, très fort. Et en effet, il y a un lien. Les Normands sont par définition des gens qui partent, hein, c'est des voyageurs, et il y a un lien très, très fort, historique, entre la Normandie et les Antilles, et l'Amérique du Sud également. Voilà.
Les Normands, ils ont pris la Sicile à une époque.
Oui, la Sicile, bien sûr.
Mais on c'est drôle parlé. Parce que Maupassant, que j'adore évidemment, mais qui n'adore pas Maupassant, Maupassant est un, reste dans l'esprit de tout le monde un écrivain. Mais c'est vrai, comme vient de le dire Olivier, il a eu des bateaux à lui, il a navigué, et pas qu'un peu. D'autres écrivains ont navigué, Jules Verne a navigué beaucoup avec ses bateaux qui s'appelaient Saint-Michel. Et puis, il y en a un troisième, alors c'est peut-être le plus grand navigateur des écrivains, qui s'appelle Georges Simenon. Simenon a possédé des yachts, il a fait le tour du monde, il a fait une navigation en Manche et en Méditerranée, enfin, il s'est promené un petit peu partout. Et alors, la drôlerie de la chose, c'est qu'il était sur son bateau avec son épouse et avec sa maîtresse, qu'il appelait Boule. Alors, l'épouse légitime accueillait la maîtresse très, très favorablement, parce que la maîtresse en question, qui était plus jolie que l'épouse, il faut dire, quand on voit les photos, on comprend Maupassant. Alors, les deux femmes vivaient tout à fait parfaitement bien ensemble, et la petite Boule, elle s'occupait aussi de la cuisine, et Simenon était tout enchanté de ça. Et c'est l'auteur, Simenon, qui a le plus utilisé les porcs comme décor de ses livres. On a compté je ne sais plus combien de porcs, mais tous les porcs du monde, pratiquement, ont quelque part été cités par Georges Simenon. Alors que pour tout le monde, vous faites un micro-trottoir, vous dites Simenon, c'est le petit bistrot du coin, avec la nappe à carreaux, le pot de Beaujolais, etc., le menton de café Madame Maigret. Mais non, c'est d'abord et avant tout un navigateur. Ces navigateurs clandestins de la littérature française, c'est sympa. Comme Conrad, il a été officier de marine de la Marine nationale française avant d'être le Conrad grand navigateur, etc.
Tu as raison, on parlait hier soir justement de la classification. Faut-il parler d'un roman maritime, etc. Simenon, vous lisez Long cours de Simenon, vous lisez Le voyageur de la Toussaint sur ses familles d'armateurs de La Rochelle. C'est la marée du port à Port-en-Bessin. que ce soit l'univers de la pêche, l'univers des cargos, en effet, l'atmosphère des îles en Polynésie ou autre, bah, c'est un écrivain pleinement maritime. Pleinement maritime. Et qui, en plus, a une, voilà, une capacité de narration de vous captiver. Qui, voilà, il a le droit à ses étoiles d'amiral.
Oui.
Il y a une chose aussi.
Il y a un écrivain aussi auquel je pensais, c'est Alexandre Dumas,
oui,
qui a beaucoup navigué, qui adorait ça, qui était un amoureux aussi des côtes italiennes, etc., qui l'a raconté très très fréquemment.
Puis qui était venu à l'aide de Garibaldi en Sicile. Il s'était fait construire. Il était complètement fou, Dumas. Mais moi, c'est pour ça que je l'adore. Hein. Il s'était fait construire un château à côté de Paris, à Port-Marly, le château de Monte Cristo, qui est une folie dans tous les sens du mot, mais surtout il s'était fait construire à un certain moment pour rejoindre Garibaldi, il s'était fait construire un voilier, un yacht, je ne sais plus comment il s'appelait, qui lui a coûté mais plus qu'un bras. Enfin, c'était parce qu'il était beau, parce que il passait son temps à le faire refaire telle partie du bateau avant même de le mettre à l'eau. Et puis, il l'a rempli de fusils, enfin, d'armes pour Garibaldi, etc. Puis, il y a un moment, quand même, il a fallu qu'il revende son bateau, parce qu'il n'a plus d'argent. Il a passé sa vie dans les dettes, pauvre Dumas. Le pauvre Dumas, c'est une expression qui lui va très, très bien. Et quand il a voulu revendre son bateau, personne n'en voulait. Il était à la fois trop primaire, le bateau, trop rustique, et trop sophistiqué. C'est tout à fait la littérature de Dumas, très historique et très aventurière. C'est des gens qui ont pas les deux pieds dans le même sabot.
Je disais,
qui ont deux pieds.
Il y a une chose qui vous rapproche aussi, c'est le rapport au grand texte. Déjà, le rapport au texte sacré, à la Bible. Didier Decoing, vous avez consacré un formidable dictionnaire amoureux de la Bible. Et Olivier Frébourg, dans notamment Un si beau siècle, vous rappelez ce lien qu'on doit avoir avec le sacré, avec cette verticalité. En quoi le rapport au texte sacré vous nourrit tous les deux, parce que ce sont de formidables récits d'histoire qui nous transcendent et qui confèrent à l'homme une valeur aussi plus grande que lui, voire spirituelle?
Alors, vaste question. Même si la référence à la mer n'est pas si fréquente dans la Bible, il y a des études d'ailleurs, il y a quelques études sur la Bible et la mer, etc., mais enfin, on ne peut pas dire que c'est ce qui se dégage le plus dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il n'empêche que la mer, et ça a été un petit peu l'ambition de ce bateau-livre dont vous parliez, de ce MOOC, comme on dit, c'est-à-dire de magazine et de livres que nous avons voulu faire, nous avons voulu réconcilier tous les aspects de la mer. C'est-à-dire que la mer, c'est à la fois ce que l'on connaît tous, c'est-à-dire l'émotion poétique, bien évidemment, le divertissement, la légèreté, l'enfance, la plage de sable blanc, la bouée jaune, et c'est très important. Moi, je ne suis pas de ceux qui distinguent les voyageurs au long cours qui vont faire des transats et les amoureux du littoral. C'est le même peuple de la mer. Et puis, il y a le sacré, en effet. Il y a le sacré parce que quand vous êtes en mer, il est impossible que vous soyez croyant ou pas de ne pas ressentir à un moment cette émotion qui vous transfigure d'une force supérieure. Ça peut être la beauté, ça peut être l'appel des anges, ça peut être beaucoup de choses. C'est la lumière, il y a la grâce. Donc, sans faire de grands discours emphatiques, il est évident que ce sacré, il est essentiel, parce que d'abord, la mer, c'est sacré pour nous, parce que si elle n'existe plus, si elle est détériorée, nous ne pouvons plus respirer. Donc, en cela, elle est absolument vitale. C'est notre souffle vital. Et c'est évidemment une chose qui est un dialogue que nous avons tous. C'est-à-dire, quand nous sommes à la passerelle d'un bateau, on est partagé par deux choses. La conversation avec les hommes d'équipage autour de vous, parce qu'on a quand même un sentiment de vivre une aventure commune. Voilà. Il y a des langages, il y a une communication, il y a un vocabulaire, souvent très, très, très direct. Et puis aussi, on se plonge en soi. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement un voyage introspectif. Et donc, en effet, pour moi, la mer, c'est le religieux aussi, et c'est le sacré. Et puisque vous aviez la gentillesse de parler tout à l'heure de ce texte que j'ai fait sur le phare de l'île Vierge, qui est un phare que j'aime énormément parce qu'il marque la distinction, la séparation officielle, arbitraire, entre la Manche, la mer de Manche, et l'Atlantique. Et en même temps, cette île de la Vierge, ce phare de la Vierge, eh bien, ils ont été habités, ils ont eu ce nom parce que des moines ont habité ces îles dans une, évidemment, dans une tentation, dans une tentative de retrait, de vie spirituelle, et cela dès le XIIIe siècle. Voilà. Donc, quand vous voyez une tempête, vous ne pouvez évidemment ne pas penser au sacré et au religieux. Voilà. Et un phare dans la tempête, moi, c'est une chose qui m'éblouit absolument. Et j'adore, je dois avouer, je ne suis pas quelqu'un de naturellement courageux, mais les tempêtes que j'ai vécues, je ne les ai jamais vécues sur un voilier en solitaire, je les ai toujours vécues sur des bateaux avec un équipage, et j'adore cette sensation. J'adore cette sensation de tempête. Je n'ai pas peur. Et elle me plaît énormément parce qu'en fin de compte, bah, vous relativisez beaucoup de choses. Hein. Il s'agit d'abord de... Là, vous ne pensez plus à vos rendez-vous de travail, à vos obligations, à vos corvées, etc. Il s'agit de sortir, évidemment, et de retrouver... de sortir de la dépression, de fuir, comme on dit, cette tempête et ces coups de vent. Donc, en effet, ce que j'aime c'est dans cette mer, bah, c'est ces différentes facettes, et notamment la plus belle, qui est évidemment celle du sacré.
Ce rapport aussi au souffle, dans Un si beau siècle, vous dites « Le temps de la lecture d'un poème, de sa relecture, de sa mémorisation, est antagoniste à l'impulsion écranique. Un poème est une prière. » Silence exigé. Il faut se perdre dans les dédales des vers pour les respirer. C'est la plus belle des ouvertures sur les vents contraires du monde. Donc, naviguer et lire, c'est une affaire aussi de respiration en lien avec ce qu'on trouve dans la Bible, notamment des psaumes. Est-ce que ça, Didier Decoing, vous le sentez forcément, cette respiration-là dans la Bible et dans ce rythme ?
Ah oui, parce que quand on lit certains psaumes, on peut les lire, c'est vraiment presque le rythme de la vague. Il y a un bruit de ressac quelque part. Oui, j'ai été un jour confronté à un problème de description. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Avec vue sur la mer ». Et je voulais raconter une chose qui était vraie, c'est que quand on a acheté notre petite maison du Cotentin, avec mon épouse, elle ne connaissait pas le coin, donc je l'ai emmenée pour lui montrer la Hague, etc. Et c'était une fin de tempête. Il y avait une tempête dans la journée, etc. Et quand j'ai voulu décrire dans le livre cette page-là, et j'ai cherché des adjectifs, et les seuls adjectifs que j'ai trouvés pour décrire le ciel de tempête, c'était des adjectifs des habits sacerdotaux. Je vais me faire comprendre. Il y avait du rouge dans ce ciel. Ben, c'était le rouge cardinal. Il y avait du violet. Ben, c'était le violet des habits d'évêques ou qu'on met sur les statues au Vendredi Saint. Il y avait un blanc qui était éblouissant, comme souvent dans les tempêtes, entre deux cumulonimbus, il y a une flaque de lumière éblouissante. Ben, c'était le blanc d'un manteau virginal, etc. Et j'ai fait une page comme ça. Dès que j'ai compris que c'était des termes de mode, entre guillemets, de ecclésiastique qu'il fallait utiliser, j'ai plus de problème. J'ai trouvé mon... je sais pas si ma page est réussie, mais toujours est-il que pour moi, elle reflète bien l'image que je voulais donner. Et c'est souvent comme ça que je vais chercher dans la vie. Mais, regardez, un phare, tu parlais des phares, Olivier, c'est quand même très proche du minaret. Et c'est amusant d'essayer de faire la comparaison entre la psychologie du gardien de phare, qui est tout seul face à l'immensité de la mer et du ciel, et la psychologie du musulman, qui n'a pas d'intermédiaire entre Allah et lui, donc qui est tout seul face à la divinité. Enfin, on peut vraiment faire des parallèles qui sont très très intéressants, creuser entre le monde, les mondes religieux et la mer. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mer dans la Bible, mais le peu de mer qu'il y a est quand même important. Il y a l'arche.
Bien sûr, il y a l'arche.
Il y a l'arche. L'arche dont le... Elle n'a probablement pas existé, l'arche de Noé. Mais l'idée est très belle. Et en tout cas, la légende d'un bateau construit par l'homme pour échapper aux inondations, cette légende-là, elle court dans d'autres croyances que les nôtres. Donc il y a ça, il y a la mer Rouge qui s'écarte. Et quand même, je constate que dans deux cas, il y en a un où l'homme est dominé par la mer, c'est l'histoire de Noé, et l'autre où c'est l'homme qui domine la mer, c'est Moïse, qui fait se séparer les flots de la mer Rouge. Et nous finissons avec Jésus-Christ qui, lui, est le maître des tempêtes, car il apaise la tempête. Vous me direz, c'était sur un lac. Mais qui connaît ce lac, c'est qui ressemble, quand il est en fureur, c'est comme le lac d'Annecy. Enfin, ce sont des lacs qui prennent des rages telles qu'on peut penser qu'ils ressemblent à la mer. Et Jésus, apaisant les tempêtes, c'est quelque chose, c'est pas rien. Et j'ajouterais que, de toute façon, la foi m'a toujours fait penser à un navire qui s'avance dans une nuit privée d'étoiles. Donc le bateau n'a pas beaucoup de repères. Il n'a que le repère de sa certitude. Il est parti d'un port et qui va à l'autre port. Et il espère être sur la bonne route.
Ce qu'on appelle une ligne de foi.
Une ligne de foi, exactement. Et il est dans le noir. Et j'ai l'impression que l'homme, l'être humain, il est quand il pense, quand il cherche Dieu, il le cherche dans le noir. Sinon, il le verrait. Et le principe, c'est qu'on ne le voit pas, comme le navigateur ne voit pas le port vers lequel il se dirige. Il le connaît, peut-être il en a le souvenir. Nous aussi, on a des souvenirs comme ça. Enfin, on pourrait faire un livre qui n'a pas été fait entre la comparaison entre la foi et la navigation.
Je l'évoquais au tout début, je souhaitais en parler. Votre travail d'éditeur, Olivier Frébourg, le fait d'avoir lancé cette maison d'édition en 2003, et ce qui me frappe d'autant plus avec cette image de la navigation, c'est la republication de textes qui n'étaient plus disponibles. Je vais en citer un parmi beaucoup d'autres, mais un qui m'est particulièrement cher parce que j'avais l'édition originale, un breton, Xavier Graal, préfacé par Pierre Adrian, qui est édité chez vous, avec un titre absolument sublime, « La nuit me dévore ». Et ça évoque aussi, dans la mer, cette part, on l'a évoqué un peu, de tragédie, mais la mer, c'est aussi les abysses, c'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas, d'où la fascination aussi pour la mer. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce travail d'éditeur qui va aller chercher peut-être des îles un peu perdues pour les éclairer à nouveau ?
Oui, alors, ce travail il remonte en fin de compte avant les Équateurs, et si je vous en parle, c'est pour une raison, parce qu'il y a un peu d'ancrage corrézien. J'ai travaillé très longtemps comme directeur littéraire aux éditions de La Table Ronde, avec Denis Tillinac, qui est un corrézien pur jus, même s'il est né à Paris, et Denis qui se moquait tout le temps de mon tropisme maritime, qui détestait la mer, etc. À chaque fois qu'on passait devant un port, parce qu'on sillonnait beaucoup la France pour rencontrer les libraires, les auteurs, etc., il me disait « bateau, sur l'eau », en se moquant de moi à chaque fois. Et nous avons créé une collection ensemble qui s'appelait la Petite Vermillon, et ce qui était une collection de poches, nous avons réédité des textes. Et je dois avouer que Denis, malgré sa fougue, ses engouements, etc., me laissait une paix royale pour rééditer des textes maritimes. Et je me rappellerai toujours que parmi les premiers titres que nous avons faits, il y a eu d'abord « Cartes postales », qui sont des poèmes d'Henri Jean-Marie Levet, qui est un poète absolument superbe. Vous connaissez tous ces vers, l'arme béique, des messageries maritimes, fil de 15 nœuds sur l'océan Indien. Et nous avons réédité, j'en parlais hier, deux écrivains corréziens, qui sont deux écrivains de voyage, que je trouve qui sont malheureusement tombés dans l'oubli, mais qui sont des écrivains que je trouve tout à fait importants, qui sont les frères Chadourne, Louis et Marc Chadourne. Donc j'ai commencé, l'un a écrit Vasco et l'autre a écrit un livre notamment, enfin ils ont écrit beaucoup de livres, très intéressant sur une croisière justement qui s'appelle le Poteau Noir. Le Poteau Noir, c'est cette zone qui est proche de l'équateur où se crée, où vous avez une convergence des alizés et où à la fois vous pouvez avoir un coup de vent extrêmement subi et au contraire un calme plat, ce qui est une figure métaphorique de l'écriture très intéressante. Et donc j'ai commencé à rééditer ces écrivains de voyage, que ce soit des poètes, que ce soit des romanciers. Et puis un jour, je suis tombé, je crois, sur les quais de Seine, sur un poète, dont j'avais lu quelques vers quelque part dans des anthologies, qui s'appelait Louis Brocquier. Et Louis Brocquier, c'est un personnage très très intéressant parce que c'est un agent des messageries maritimes, c'est-à-dire que c'était, si vous voulez, le sédentaire des compagnies maritimes dans le monde entier. Il représentait les intérêts des messageries maritimes. Il avait été en poste à Alexandrie, à Nouméa, à Shanghai. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que je découvre une poésie qui avait été totalement publiée absolument chez Gallimard pendant l'entre-deux-guerres, puis pendant les années 50, et qui avait été complètement oublié parce que broyé, si vous voulez, par la vague du surréalisme, des avant-gardes, etc. Or, ce poète était le plus grand poète français des ports, pas des bateaux simplement, mais des ports, des dockers, de la manutention, de la vie des hangars, des parfums, du parfum de l'agrume, du coton, de la matière et de cette vie de portuaire extraordinaire. Et c'est un poète extrêmement accessible, avec des accents par souvent baudelairiens dans sa mélancolie. Et Brocquier m'a absolument envoûté parce qu'en plus, c'est un photographe extraordinaire qui a photographié tous les ports où il était affecté et donc avec des photos, mais je trouve parfois dignes de Doisneau, hein, qui sont vraiment de grande qualité, qui se conservaient à Marseille. Et donc j'ai décidé, et Denis m'avait laissé cette liberté, je l'avais emmené à Marseille, nous étions allés voir la sœur de Louis Brocquier qui était encore vivante, et on a édité toutes les œuvres complètes en un seul volume, sous le titre de « Je connais des îles lointaines » de Louis Brocquier, et le travail d'un éditeur, c'est aussi de faire revenir comme ça des écrivains qui, pour des raisons souvent injustes, sont oubliés. Et j'ai commencé ainsi, si vous voulez, une sorte de sillage éditorial maritime. Alors, je ne suis absolument pas le premier, je veux dire, des écrivains et éditeurs aussi, comme Michel Lebris, ont souvent alimenté des maisons d'édition, les éditions Phébus ont aussi fait beaucoup de choses sur la mer. Mais, je veux dire, plus on est de fous, mieux on rit à bord de la nef des fous. Et donc, voilà. Et en effet, quand j'ai créé les éditions des Équateurs, qui fêtent aujourd'hui leur 18 ans, l'âge de l'autonomie et quel bel âge. En effet, si j'ai pris les Équateurs, c'est en effet une référence, comme vous l'avez dit très exactement, à Sandras. C'est la ligne de passage imaginaire de l'Équateur. Donc, c'est un voyage absolument symbolique. Et puis, ce sont aussi, évidemment, les lignes de l'écriture. Et là-dedans, dans cette maison où nous avons publié à la fois de la littérature contemporaine, des romanciers de voyage comme Jean-Paul Kaufmann, comme Sylvain Tesson, le voyage est important évidemment, eh bien nous avons aussi eu ce tropisme maritime en publiant des textes inédits, par exemple de Conrad. Nous avions fait une très très belle rencontre avec Bernard Giraudot, qui faisait partie de notre confrérie aussi des écrivains de marine, à bord de la bouteuse de notre ami Franceschi, où on lisait des textes de Conrad. Et en effet, la lecture, la navigation, toutes ces choses-là vont ensemble. Et puis, j'ai voulu fédérer ces énergies, j'ai voulu fédérer des écrivains qui aimaient la mer de façon très, très différente. Jean-Paul Kaufmann est un écrivain amoureux de la mer, de la Bretagne, mais ce n'est pas non plus un navigateur, mais il a un rapport, justement, il raconte dans ce texte une promenade avec ses enfants, une longue marche le long de la Côte d'Argent, dans le sud-ouest, avec Denis Tillina, qui est un texte absolument magnifique, à la frontière, à la lisière, justement, entre sable et grand large. Et on a voulu fédérer toutes ces énergies parce que la France a une chance exceptionnelle, c'est que nous avons sans doute, parmi les plus grands marins du monde, nous avons les plus grandes, je dirais, scientifiques du monde, que ce soit le CHOM, par exemple, qui est le service hydrographique de la marine, donc avec des recherches extrêmement pointues, avec une cartographie. Nous avons des start-up absolument extraordinaires. Mais nous avons un problème, c'est notre politique maritime. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à fédérer toute cette famille de marins, que ce soit les marins de la pêche, les marins du commerce, les marins de la voile et les baigneurs, tout simplement, que nous sommes tous plus ou moins l'été. Et très modestement, j'aurais pu créer un parti politique de la mer, mais enfin, il y a déjà le parti des écologistes et la politique n'est pas ma chose. Mais je crois à la poétique de la mer, donc au dégagement, parce que la mer, c'est en effet l'imaginaire, c'est l'appel du large, c'est la rêverie, mais je crois profondément à la politique de la mer, à l'engagement. Je suis persuadé, moi, c'est le seul parti qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est ce qui peut véritablement nous sauver, et c'est ce qui est notre utopie du 21e siècle. Et donc, on a voulu, avec l'attitude mer, créer, en quelque sorte, ce premier MOOC qui fédérait toutes ces énergies maritime.
Merci infiniment, Olivier Frébourg. Latitude mer et un si beau siècle. Didier Decoing, merci beaucoup. Le bureau des jardins et des étangs, merci à vous pour cette très belle navigation ce samedi matin. On peut vous retrouver.
C'est nous qui vous remercions.
Merci.
Merci, mon cher Didier.
On peut retrouver Didier Decoing en L13 et Olivier Frébourg en L28.
Oui, absolument.
Mais
c'était passionnant.
Merci.